Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de la Turbine à graines. Et pour ça, nous avons autour de la table Wim Delamotte, bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Quenouillère.
Bonjour.
Bonjour. Et tous les deux, donc, vous êtes ici pour nous présenter d'abord ce qu'est la Turbine à graines, qui approche de ses 3 années d'existence, et puis qui est basée à Saillant d'ailleurs. Et vous êtes là pour nous présenter la programmation 2019 de la Turbine à graines. Sophie Quenouillère, vous avez quelle fonction au sein de la Turbine à graines ?
Alors moi, je suis animatrice, formatrice, comme mes autres collègues. On est 4 actuellement porteurs de projets qui exercent finalement le même métier, la même activité, animateur, formateur d'éducation populaire.
Et Wim ?
Mais donc, comme Sophie l'expliquait, on a en fait un fonctionnement assez horizontal à la Turbine à graines. On a tous des missions similaires. On se répartit les rôles sur le portage de la structure. Et puis ensuite, on est tous aussi sur le terrain en intervention, que ce soit en formation ou en accompagnement de structure.
La Turbine à graines permet l'éducation populaire.
Tout à fait.
Comment s'opère cette éducation populaire et auprès de quel public ?
Alors, l'éducation populaire, comment elle s'opère ? Alors, je ne sais pas si elle s'opère. En tout cas, à la Turbine à graines, on a comme projet d'ouvrir des espaces de débat, de réflexion, de formation qui permettent justement de faire des pas de côté, de prendre du recul sur ses postures, sur ses pratiques en tant que professionnel ou en tant qu'individu, citoyen, citoyenne, peu importe. L'idée étant d'aller travailler sur nos empêchements à agir, de se redonner aussi du désir, de l'envie d'agir, parce qu'on sait aujourd'hui que la société actuelle peut nous empêcher ou créer une sorte de résignation, de fatalisme. Et à la Turbine, on essaye justement de lutter et de résister contre ça avec les personnes. L'idée en plus étant de toucher un public large, c'est-à-dire que nos formations et les accompagnements qu'on propose sont ouverts à n'importe qui, sachant qu'on est quand même très ancré sur le territoire drômois, puisqu'on est basé en effet à Saillant, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais aussi dans les Hautes-Alpes, où on intervient assez régulièrement.
Et la Turbine à graines est basée à Saillant. C'est un territoire qui vous a ouvert les portes facilement pour pouvoir vous installer.
C'est un concours de circonstances en fait qui a amené à nos collègues qui ont monté la structure à s'installer du coup à Saillant. Et bien sûr que les circonstances politiques d'il y a quelques années avec la mairie participative de Saillant ont concouru à cette rencontre, mais l'association est complètement indépendante du fonctionnement municipal.
C'est une suite de services qui sont proposés par la Turbine à graines. L'accompagnement, donc, on peut peut-être développer ce mot dans ce contexte.
Alors du coup, à la Turbine à graines, on s'est rendu compte que pour beaucoup de collectifs, il y avait à la fois du désir de s'impliquer, de transformer le monde. Donc c'est ce qu'on nomme nous la transformation sociale. Et qu'il y avait aussi en même temps beaucoup de désillusions, de difficultés à s'organiser collectivement et que c'était un facteur parfois d'échec et de démobilisation. Et donc on a eu envie d'explorer ces questionnements-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un collectif va pouvoir durer dans le temps, que chacun va pouvoir trouver sa place dans le groupe, qu'on va pouvoir développer le potentiel de chaque personne, augmenter la puissance d'agir aussi du collectif. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment indispensable pour tout collectif de prendre le temps de s'observer, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer entre les personnes, dans les rapports de pouvoir, dans les conflits sous-jacents, dans les envies, les désirs profonds de chacun, les valeurs communes aussi qui portent le collectif. Et que tout ça, en fait, souvent, c'est de l'implicite, c'est-à-dire que c'est pas vraiment mis au travail dans le groupe, alors que le groupe évolue dans le temps, qu'il a des nouvelles contraintes, des nouvelles personnes, des nouvelles envies. Et c'est ce qui fait souvent que les personnes finalement ne s'y retrouvent plus parce que elles trouvent plus leur place, parce qu'il y a un leadership qui les dérange, parce qu'elles ne trouvent pas la place pour s'exprimer, elles se retrouvent plus dans les valeurs du groupe. Donc voilà, pour nous, c'est indispensable que chaque collectif prenne le temps de faire des pas de côté pour s'observer, comprendre ce qui se joue, pour ensuite pouvoir transformer ses pratiques collectives. Et c'est ça qu'on propose. Donc voilà, donc ce qu'on nomme accompagnement, c'est comment accompagner un groupe là où il veut aller. Donc on est dans des postures non directives qui permettent au groupe de se regarder avec des, voilà, on a plusieurs approches différentes issues notamment de l'éducation populaire mais aussi de l'analyse institutionnelle qui permettent du coup au collectif de se mettre au travail.
Ça nécessite une belle connaissance du territoire pour essayer de mutualiser en quelque sorte ou offrir des services ou du partenariat avec d'autres structures.
Alors du coup sur la question du territoire, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et notre implication à la Turbine, elle est aussi liée à nos implications militantes qu'on a pu avoir chacun de nous en fait sur nos territoires. Moi, Adi, c'est vrai que j'ai participé à différents collectifs militants autour de la transition écologique ou du temps de l'Assemblée populaire du Diois, et c'est vraiment ces expériences-là qui m'ont donné envie de creuser ces questions de collectif. Et donc aujourd'hui, c'est important pour nous ce lien avec les structures et les collectifs informels aussi d'ailleurs qui nous sollicitent dans la vallée de la Drôme. Ça donne du sens à notre action et c'est vraiment une volonté de pouvoir être en soutien des différentes mobilisations qui peuvent s'organiser quelle que soit leur forme.
Et d'ailleurs, est-ce que sur le territoire, enfin sur le Diois, existe-t-il des acteurs de la Turbine à graines ?
On est en lien avec pas mal de collectifs différents qui nous sollicitent ou qui nous soutiennent, avec lesquels on est en réseau. On est impliqué dans le réseau éducation Biovallée, par exemple. On est aussi beaucoup en lien avec l'espace social de Die ou les autres centres sociaux MJC de la Vallée. Et puis, on est aussi inscrit dans le réseau des CREFAD, qui est un réseau national d'associations d'éducation populaire qui se retrouve notamment autour de la méthodologie de l'entraînement mental, qui est une méthodologie qui permet d'analyser, de comprendre les situations dans leur complexité.
On passe à la formation, ou aux formations au pluriel plutôt. Quelles sont les propositions qui émanent de la Turbine à graines ?
On a une carte de formation qui est assez importante. Là, les prochaines qui sont à venir, on va commencer par animer l'intelligence collective, qui est une formation assez transversale et qui est du coup un espace qu'on ouvre pour à des personnes qui ont plutôt une expérience de collectif ou qui sont impliquées dans des collectifs ou des groupes professionnels ou autres, informels ou formels, voilà. L'idée étant d'aller, comme le disait Wim tout à l'heure, d'interroger sa place dans le collectif, de se doter de grilles de lecture, d'analyse sur comment fonctionne ce qui se joue au sein d'un groupe, de son groupe, de son collectif. Et pour ça, du coup, on part des chantiers ou des problématiques de chacune de ces personnes-là durant la formation. C'est un espace, du coup, on se met au travail soi et où on vient faire des allers-retours entre l'individu et le collectif en permanence, en gros, ça fait partie de notre démarche à la Turbine à graines. Voilà. Donc ça, c'est cette formation, elle aura lieu à Abiter, à Die, du 12 au 16 novembre. Il reste quelques places pour les personnes qui sont intéressées pour nous rejoindre.
Justement, il y a un moyen de contacter Abiter ou on passe directement par vous ?
Alors, on passe directement par la Turbine à graines via notre site internet, donc laturbineagraines.net. Voilà, contact@laturbineagraines.net. Ou par téléphone, mais voilà, c'est plus facile par mail. Donc ça, c'est la prochaine formation. On en a une autre aussi sur la relation adulte-enfant. Peut-être que Wim, tu peux en parler.
Ouais, l'idée, c'est de venir creuser la question de la posture éducative et de la relation, qu'est-ce qui peut jouer dans une relation éducative entre un adulte et un enfant, et notamment à venir démasquer les rapports de domination qui peuvent se jouer parfois malgré nous, en interrogeant nos pratiques, nos postures, en repartant aussi de nos vécus en tant qu'enfant ou en tant que professionnel de l'enfance, ou en tant que parent ou en tant que militant dans des associations d'éducation populaire. Enfin, voilà, cette formation, elle a lieu du coup du 31 octobre au 2 novembre à Abiter aussi.
Est-ce que vous avez un soutien d'institution par rapport à ce travail que vous opérez j'imagine auprès de, par exemple, de la CAF, qui propose peut-être aussi des aides financières pour ce genre d'activité.
Alors actuellement, la Turbine à graines, c'est un choix d'abord politique. On ne fait pas appel à des subventions publiques et on ne travaille pas non plus avec la CAF ou d'autres types d'institutions publiques. Par choix. Aujourd'hui, nous, on est financés grâce à la formation professionnelle, essentiellement, qui d'ailleurs est peut-être un biais, puisque vu la situation et la réforme de la formation professionnelle, qui n'est pas de bon augure pour les années à venir, on est quand même sur une forme de précarité, on va dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est la source de nos revenus, la formation professionnelle, sachant que tout le monde n'a pas forcément connaissance ou accès à des droits à la formation, et que dans ce cas-là, on propose la participation libre et consciente pour nos formations et nos accompagnements également. Maintenant, peut-être que la question, elle va se poser prochainement si on veut continuer à exister, simplement. Mais elle se pose la question, en effet, de ce lien avec les subventions publiques, alors même que parfois on dénonce aussi ces formes d'assujettissement, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais bon, en tout cas, on est dans cette réflexion actuellement pour éventuellement diversifier nos financements et s'assurer un futur, mais pour l'instant, on reste autonome sur ce plan-là, sur le plan financier.
Et puis on passe au semail. Alors qu'est-ce que vous semez avec la turbine à graines?
Pour nous, les semailles, c'est des manières de réinventer l'éducation populaire en dehors des sentiers battus, et en fait d'expérimenter des choses. C'est quelque chose qui est assez phare dans nos pratiques. On est sans cesse en train de tenter de nouvelles approches, de se questionner sur nos manières de faire. Et on est nourri aussi par toutes les personnes avec qui on travaille. Donc c'est une approche vraiment de laboratoire. C'est comment ouvrir des espaces de recherche à plusieurs. On devient les sociologues de nos propres réalités. Et donc on tente des expérimentations, que ce soit avec des colos autour de, par exemple, l'île aux pirates pour réinventer la question du numérique et de la radio, justement, avec les enfants, ou avec le théâtre forum, comme on a fait l'année dernière avec le lycée d'Audi, qui permet aux jeunes de venir travailler sur les oppressions qu'ils subissent dans leur quotidien. On fait aussi des formations aux porteurs de parole ou des interventions sur l'espace public. Et puis cette année, donc les deux nouveautés de cette année, c'est donc deux cycles qu'on propose. Donc le premier, sur les techniques introspectives en théâtre de l'opprimé. En fait, le théâtre de l'opprimé, comme je disais, c'est un moyen de venir travailler sur les oppressions que les personnes vivent. Et ces techniques introspectives, elles viennent travailler sur quelles sont les oppressions qu'on s'inflige à soi-même. Donc on nomme aussi les flics dans la tête. Et comment on peut dépasser ces empêchements-là. Donc c'est un cycle de trois week-ends qui va être réalisé en partenariat avec l'association Nage. L'autre cycle qui est la nouveauté aussi de cette année, c'est le cycle travail. Donc la première date aura lieu ce jeudi, et puis ensuite tous les deuxièmes jeudis du mois. Et où l'idée, c'est de venir se questionner sur notre rapport au travail. Donc, qu'est-ce qui fait que le travail, pour moi, va être un moteur ou un frein, un levier d'émancipation, ou plutôt une oppression subie? Comment on peut arriver à être dans des situations de souffrance au travail, et comment on peut s'en libérer en venant s'appuyer sur les vécus des personnes? et en venant chercher collectivement aussi des pistes pour comprendre ce qu'on vit et puis pour avoir une prise dessus, voire pourquoi pas de s'entraider les uns les autres.
Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est le dispositif local d'accompagnement dans lequel vous êtes référencé ?
Alors le DLA, donc en effet nous sommes référencés dans le DLA Rhône-Alpes. En fait c'est un dispositif qui est proposé par l'État et financé par l'État, qui permet à toute association, puisque c'est plutôt ouvert aux associations, d'être accompagné sur au moins 5 journées par une structure comme la Turbine à Graines, par une association comme la Turbine à Graines, lorsque ces associations ou ces collectifs sont en situation de crise ou de transition, ou face à des problématiques où ils n'arrivent pas forcément à trouver les clés par eux-mêmes. Du coup, il y a cette possibilité, en effet, de déposer une demande auprès du DLA local, donc en l'occurrence Valence, qui s'occupe de solliciter des structures comme la Turbine à Graines. Mais le contact ne peut pas se faire directement vers nous. En tout cas, il faut savoir qu'on est référencé, que c'est une possibilité. Et nous, on a déjà répondu, en effet, à des propositions. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans la durée, contrairement aux accompagnements auxquels on répond actuellement, qui durent plutôt entre 2 et 3 jours. Parfois, il faut beaucoup plus. Et c'est vrai que dans le cadre du DLA, l'intérêt, c'est qu'on ait un peu plus de temps pour pouvoir aller justement prendre le temps de faire émerger les non-dits, rendre visible l'invisible, aller voir ce qui se joue dans ce collectif et puis derrière pouvoir construire, trouver les solutions collectivement en partant des vécus et des histoires de chaque collectif.
Tout à l'heure, vous disiez que avec la réforme de la formation professionnelle à venir, est-ce que actuellement vous êtes en réflexion là-dessus pour justement préparer cette réforme de la formation au sein de votre structure ?
Alors c'est une réflexion qu'on a en effet amorcée il y a quelques mois et pas seul. On a décidé aussi de s'unir, de se rapprocher de structures amies qui sont plutôt locales, enfin ancrées sur le territoire drômois, mais pas que d'ailleurs, avec l'idée de pouvoir réfléchir à toutes ces problématiques qui nous concernent toutes en tant que structure et organisme de formation. Le problème, c'est qu'il y a une opacité assez prégnante et qui nous empêche réellement de savoir ce qui peut nous tomber sur la tête, on va dire, dans les prochains mois. Du coup, là, on est plutôt en stand-by sur ces questions-là et plutôt à réfléchir à comment réinventer nos modèles économiques plutôt que de se dire comment on résiste à cette réforme de la formation professionnelle où on a peu de prise actuellement car peu d'informations à disposition finalement. Du coup, c'est une réflexion qu'on mène, c'est une réflexion de fond, mais qui nous pousse finalement à réfléchir plutôt à comment faire évoluer notre modèle économique plutôt qu'autre chose.
Mais c'est vrai qu'on suit cette réforme de près parce qu'en fait, elle nous touche directement dans les valeurs qu'on défend dans l'éducation populaire, c'est-à-dire la formation continue pour tous tout au long de la vie. Et en fait, c'est des droits, clairement, c'est un droit social acquis par les luttes sociales, en fait, qui est en train de s'amenuiser de plus en plus, comme de nombreux autres droits. Et pour nous, c'est indispensable que les citoyens continuent à accéder à de la formation tout au long de la vie.
Il y a tout un tas de modules proposés toute l'année. On peut peut-être en présenter quelques-uns, hein, parce que la liste est longue quand même. Parmi ces stages et ces formations que vous proposez, est-ce qu'il y en a certains que vous voulez mettre en avant ?
Eh ben, on peut vous présenter donc les prochaines à venir. En plus d'animer l'intelligence collective, de transformer notre relation aux enfants, il y a aussi donc le social en travail qui a lieu du 5 au 9 novembre dans les Hautes-Alpes. Et où l'objet, c'est de venir re-questionner la question du travail social et comment il peut être un levier d'émancipation pour les personnes accompagnées et pas se transformer en contrôle social. Quels sont aussi les parallèles qui peuvent être faits avec les valeurs et les méthodes de l'éducation populaire et comment l'accompagnement peut être vraiment au service des personnes en les laissant expertes de leur propre situation et pas un nouveau mode de domination de l'accompagnant sur l'accompagné. C'est un espace de laboratoire ouvert aux militants, aux professionnels du monde du travail social pour venir re-questionner leurs pratiques.
cette animation autour du social en travail qui sera animée par quelle structure ?
Pour plusieurs de nos formations, surtout celles qui s'ouvrent à des champs professionnels bien spécifiques comme le monde du travail social, on travaille en partenariat avec des professionnels du secteur. Donc c'est un collègue à nous, Julien Revol, qui porte la formation en co-animation avec Benjamin Larvoir, qui est éducateur spécialisé et qui notamment a beaucoup travaillé dans des lieux d'éducation populaire sur cette relation, ce lien entre l'éducation spécialisée et l'éducation populaire.
Vous êtes combien au sein de la Turbine à graines pour faire vivre cette aventure ?
Alors actuellement, on est 4 permanents et permanentes, sachant, comme le disait Wim, qu'on a un deuxième cercle de personnes avec qui on est amené à travailler, qu'on appelle les coopéracteurs et coopératrices, où c'est spécialiste de certains secteurs. Enfin, c'est spécialiste, on n'aime pas trop ce mot parce que c'est pas des experts non plus, mais en tout cas des personnes qui sont issues de secteurs particuliers spécifiques qui seront en lien avec les formations qu'on va proposer. Donc c'est le cas par exemple dans Social en Travail où on va venir travailler avec un éducateur spécialisé. Ça va être le cas aussi pour la formation santé qu'on va proposer et co-animer avec une médecin et dans repenser les pratiques de soins, voilà. Et dans d'autres formations où justement on trouve important que on puisse co-animer avec des personnes qui sont issues du terrain. Voilà.
On a aussi des formations qui travaillent sur le rapport au corps, donc du corps poétique au corps politique. On travaille avec une danseuse chorégraphe notamment qui permet vraiment de croiser les approches et les regards. Et pour nous, c'est très important à la Turbine, cette dimension aussi de la présence du corps, la présence de la dimension artistique, symbolique. On cherche aussi à créer des espaces de travail qui sortent du mental et qui viennent croiser les regards pour permettre déjà à tous de trouver sa place et puis d'explorer les différents champs de l'être humain.
Je suppose que c'est avec l'improbable que serait animé cet atelier.
Voilà, c'est ça.
Alors, vous-même, Sophie et Wim, vous proposez du 1er au 3 février 2019 un atelier qui sera tous les deuxièmes jeudis du mois et qui s'intitule « Je travaille, moi non plus ». Cette notion du travail, est-ce que vous pouvez la définir, vous, dans votre idéal ?
Ah, alors c'est une question qu'on se pose, enfin en tout cas moi personnellement que je me pose pas chaque jour mais presque. Je sais pas si j'ai un idéal, mais en tout cas si on a eu envie d'aller travailler sur cette question-là, c'est parce que c'était vraiment une interrogation sûrement liée à notre passé dans d'autres collectifs et dans d'autres milieux professionnels où, en tout cas, moi personnellement, j'ai pu être mise à mal ou je me suis questionnée sur comment le travail pouvait être une source d'émancipation, mais aussi une source d'aliénation. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Enfin, c'est un questionnement qui est vivant et à tel point que j'avais envie aussi de pouvoir le partager avec d'autres personnes dans le cadre de la turbine à graines. Et c'est pour ça qu'on a imaginé avec WIM ce qu'on appelle un chantier travail. Et on a commencé du coup début 2018 avec un espace qu'on a ouvert, un espace laboratoire, une formation autour de cette question du travail, de notre rapport au travail. Et on s'est dit qu'on avait très envie de continuer en ouvrant cette question aussi à un public plus large, c'est-à-dire pas seulement des personnes qui feraient la démarche de venir à nous dans cette formation-là, mais plutôt en le proposant dans un lieu comme ça va être le cas là, ces ateliers de travail auront lieu dans une MJC à Valence, la MJC du Grand Charan. Avec un format différent, c'est-à-dire que la formation elle était sur 3 jours. Là, c'est des ateliers de 2 heures qui se répètent régulièrement, donc tous les deuxièmes jeudis du mois, avec l'idée de pouvoir brasser un public plus large et de permettre à n'importe qui, finalement, de pouvoir ouvrir et poser une parole, se raconter autour de son vécu au travail. Voilà. Et éventuellement prendre conscience de certains assujettissements ou en tout cas peut-être de cas de souffrance qu'ils auraient envie de partager. En tout cas, on ouvre cet espace-là pour rendre possible tout ça.
Et c'est aussi en fait suite à un constat, en tout cas un désir plutôt de comprendre qu'est-ce que c'est le travail, parce que ta question Yves, elle est bien sûr très complexe et on pourrait en discuter longuement. C'est quoi le travail? Et en fait, l'idée, c'est justement de se poser cette question ensemble dans cet atelier et de voir, pour moi, c'est quoi le travail? Comment il impacte dans ma vie? Et qu'est-ce qu'on peut en dire de l'état aussi de la société aujourd'hui? On a choisi ce thème-là parce que ça nous a paru vraiment central dans notre société, cette question du travail, pour ceux qui en ont trop qui en souffrent, ceux qui en ont pas assez qui en souffrent, et comment ça revient de manière constante dans le débat public. Et puis c'est aussi la question de la sociologie critique, en fait. Vraiment, nous, on tient à cette question de comment on peut retrouver une prise sur la société. C'est des gens en comprenant, en fait, de quoi on parle, c'est quoi cette société, comment elle fonctionne. Et donc, pour la comprendre, il y a bien sûr les démarches de lecture, d'arpentage. Nous, on propose beaucoup dans nos ateliers des temps de lecture collective partagés pour aller aussi s'alimenter de manière théorique. Mais on s'appuie énormément sur ce qu'on appelle les savoirs chaud, c'est vraiment les expériences, les vécus des personnes qui nous permet de donner des regards croisés sur qu'est-ce que c'est la société. En fait, les vécus individuels sont le reflet aussi de ce que traverse la société, et au plus on va croiser des regards variés, au plus on va avoir une lecture exhaustive de ces fonctionnements sociaux qui nous conditionnent, qui nous façonnent et dans lesquels on est tous pris parfois malgré nous.
La turbine à graines s'adresse à tout public, mais aussi à des collectifs, des associations, collectivités. Est-ce que c'est aussi des échanges avec ces structures de manière à trouver des clés qui permettent de transformer justement le monde du travail?
Oui, on travaille en partenariat avec des structures, avec plusieurs réseaux nationaux d'associations qui sont dans le milieu éducatif, de l'éducation populaire, mais aussi de l'accueil de volontaires internationaux, de l'engagement volontaire des jeunes en service civique, et puis, comme on en a parlé tout à l'heure, de structures plus locales. Et ce partenariat, il existe à la fois donc sur le domaine de la formation, pour pouvoir proposer des formations adaptées aux militants et aux salariés de ces structures, et puis à la fois sur un accompagnement qu'on peut proposer à nous au sein des structures dans les moments plus difficiles qu'elles traversent. Ça peut être soit vraiment quand une structure traverse une crise et que tout est bloqué, que la parole ne circule plus, que les non-dits polluent l'atmosphère pour tout le monde. Donc là, on a un dispositif qui s'appelle l'associanalyse, qui est issu de l'analyse institutionnelle et qui permet vraiment de débloquer ces situations. Et puis sinon, on intervient dans des cas parfois juste de structures qui ont besoin de faire un pas de côté sur leur pratique, d'explorer un champ, une dimension de leur projet, de prendre un temps ensemble pour recréer de la culture commune. Et donc ben là, on vient aussi avec notre mallette à outils de l'éducation populaire pour permettre de retrouver du sens commun dans des projets collectifs.
Et donc la turbine à graines a une certaine implication dans ce genre de mutation. Alors, est-ce que vous êtes aussi, comment peut-on dire, consultatif par rapport à des structures d'État ou d'exécutif pour avoir quelques éclaircissements, par exemple, sur certaines manières?
Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Après, on se pose la question, en effet, de comment on s'ouvre à un public plus large. C'est une vraie question qui aussi nous anime au sein de l'équipe. Je crois que dans le cadre du chantier travail, la thématique travail, l'idée de s'ouvrir et d'aller au-devant des personnes en s'installant dans une MJC une fois par mois, c'est un premier pas. Et après, autour de la question du rapport au travail et du travail, c'est pas très clair encore, mais il y a quand même ce questionnement de est-ce que ce serait pas intéressant d'aller dans des entreprises ou dans des établissements ou des structures dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller, où ces personnes-là ne viendraient jamais à nous, pour pouvoir aller titiller autour de ces questions-là, notamment du travail, mais peut-être d'autres aussi. Mais voilà, c'est une vraie question qui nous anime, sur laquelle on n'est pas forcément d'accord. Ou en tout cas, c'est pas assez abouti pour avoir pris une décision actuellement.
Et en dehors du chantier, donc sur la question du rapport au travail, on intervient déjà auprès d'institutions. En fait, on a eu plusieurs sollicitations du Conseil général de la Drôme ou de parcs naturels régionaux, d'institutions dans le milieu, le secteur médico-social aussi. À Androme en Isère, et c'est vrai que c'est des interventions qui nous ouvrent aussi des horizons à d'autres mondes qui sont aussi importants de toucher du doigt.
Vous parliez d'émancipation en début d'émission aussi. Est-ce que l'émancipation est une idée abstraite pour beaucoup de monde aujourd'hui, parce que pris dans un engrenage sociétal et de pression salariale, par exemple, ou de non-emploi, justement?
Oui, effectivement, en fait, parfois on croit que c'est un terme qui est lié à des analyses marxistes du 19e siècle. En fait, l'éducation populaire, elle refait vivre la question de l'émancipation au présent. Et en fait, c'est la base déjà du travail qu'on peut faire, c'est reconnaître pour soi les oppressions qu'on peut vivre dans nos quotidiens. Et les oppressions de classe, elles existent réellement. Les oppressions de genre aussi. Il y a toutes sortes de dominations qui peuvent s'exercer et qui peuvent produire une souffrance, une injustice réelle. Donc oui, la question de l'émancipation, c'est déjà comment est-ce qu'on ouvre les yeux sur ce qu'on vit. On se passe de l'état de victime à l'état d'opprimé conscient. Et ensuite, quels moyens d'action on peut trouver. Et justement, c'est sûr que l'éducation populaire, ce qu'elle ramène beaucoup, c'est la question de la force collective. Comment on peut créer un rapport de force en se ralliant avec des personnes qui défendent les mêmes intérêts que nous. Et ensuite, il y a des questions d'ordre de la stratégie pour atteindre du coup ces moyens dans parfois un rapport de force qui est pas forcément favorable. Donc voilà, on le voit aujourd'hui avec l'état actuel de la société.
Est-ce que vous conjuguez la transformation personnelle avec la transformation sociale? Pour vous, c'est quelque chose de primordial?
En tout cas, c'est l'approche qu'on défend. C'est-à-dire que dans tous les espaces qu'on ouvre, que ce soit des formations, dans les accompagnements, on part du principe qu'en fait, c'est difficile de changer le monde ou un collectif sans se changer soi-même. En tout cas, prendre conscience, en effet, d'où on vient, de comment on est constitué, des rôles aussi qu'on nous a assignés ou que les normes ou les codes sociaux nous assignent en tant que femme, en tant que... Enfin voilà, il y a différents statuts. Prendre conscience de tout ça nous permet éventuellement de se libérer ou de s'émanciper. On parlait d'émancipation là tout de suite. Et de prendre conscience aussi de la place et de nous en tant qu'individus dans un collectif. Et du coup, de l'impact qu'on peut avoir ou l'influence qu'on peut avoir dans un groupe et inversement, comment un groupe, un collectif peut nous influencer, nous impacter. Et c'est pour ça que dans les méthodes qu'on utilise et dans les outils qu'on propose, il y a vraiment des allers-retours en permanence entre la transformation individuelle, la transformation de soi, au service de la transformation collective.
Vous avez 2 ans et demi d'existence. Est-ce que vous avez acquis une certaine expérience et peut-être nous en donner quelques résultats sur ce que vous avez fait ?
C'est un petit peu ce que je disais en introduction. En fait, c'est la nécessité absolue pour tout collectif de prendre le temps de s'observer, de se parler et de se donner les moyens que chacun puisse s'y retrouver, de nommer les non-dits, d'aller au bout des conflits. Moi, personnellement, c'est vraiment la leçon que je retire de mes engagements militants, professionnels et de tout ce que j'apprends là. À la fois dans notre fonctionnement à la Turbine à graines, puisqu'on fonctionne de manière aussi autogestionnaire, avec ses allers-retours, prendre en compte les besoins individuels, mais aussi porter un projet collectivement. Et donc on met au travail tous ces enjeux. C'est pas toujours facile, mais on essaye de se donner les moyens des idéaux qu'on porte. Voilà, donc c'est vraiment cette question. Que c'est bien d'avoir des idéaux et de les défendre collectivement, mais si on ne se donne pas les moyens de les appliquer dans notre vie collective, pour moi, il y a une incohérence qui est une faille qui peut vraiment faire souffrir les personnes, voire annuler l'action des collectifs. Et ça me semble indispensable de prendre ce temps-là.
Dans votre fascicule, une question. Où est donc passée l'éducation populaire ? On peut définir l'éducation populaire telle qu'elle a été conçue à un temps, certainement, je suppose, à partir du 19e siècle ?
Ben, en fait, l'éducation populaire, c'est un peu comme l'émancipation, c'est que c'est des sujets, c'est un sujet à part entière que chacun peut essayer de définir pour lui-même. Nous, effectivement, on ramène beaucoup cette question, c'est quoi l'éducation populaire pour moi, parce que c'est un moyen de retrouver du sens dans les structures qui parfois sont dépassées par des cadres juridiques contraignants, par des financeurs qui trahissent finalement le sens premier d'un projet, par des contraintes d'organisation collective. Et donc oui, c'est une question qu'il faut sans cesse se reposer. C'est quoi l'éducation populaire pour moi, pour nous collectivement ? Et c'est pour ça qu'on ouvre tous ces espaces de réflexion.
Sachant qu'en effet, il n'y a pas une seule définition. Oui, on peut se référer à l'histoire de l'éducation populaire qui remonte à la Révolution, ou à la Résistance en tout cas. Mais je pense que, en tout cas, on peut le considérer comme une démarche qui permet de se rencontrer entre pairs, de se raconter, de raconter nos histoires, nos vécus, de pouvoir imaginer ensemble des formes de résistance, justement, une fois qu'on a pris conscience de nos empêchements à agir ou des rapports de domination qui s'exercent sur nous en tant qu'individus, de savoir déjouer ces rapports aussi et de résister, je crois, au formatage, au conditionnement dont on est... dont on est tous victimes, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas c'est une réalité, et d'en prendre conscience et de pouvoir s'organiser collectivement pour les surpasser, c'est le leitmotiv ou en tout cas un moteur de l'éducation populaire.
Alors à côté de ça, vous proposez des ateliers formation sur site hein, et vous les proposez sur mesure. Comment s'opèrent ces rapprochements ?
Alors les ateliers formation sur site, c'est plutôt lorsqu'une structure ou un collectif, que ce soit une association, une équipe au sein d'un centre médico-social ou une collectivité locale va faire appel à la Turbine à graines pour intervenir sur une journée, 2 journées, 3 journées en fonction des besoins et des disponibilité. Et du coup, là, on va imaginer ensemble, en partant vraiment de leurs problématiques et de leurs besoins, on va imaginer ensemble une intervention pour aller démêler les problématiques en fonction de leur réalité. Donc là, la démarche, elle est un peu différente. Ça nous arrive très souvent d'intervenir plutôt dans le cadre d'accompagnement, mais ça peut être aussi dans des situations qui ne sont pas forcément des situations conflictuelles ou de crise. Là, dernièrement, on est intervenu justement pour, dans une association qui avait envie de se questionner sur mais en fait, c'est quoi pour nous être un mouvement d'éducation populaire ? Voilà, donc passer 2 jours à se questionner autour de cette notion-là, ce concept-là, et se dire est-ce qu'on est en cohérence aussi avec nos valeurs ? Est-ce que on ne devrait pas réinterroger le sens donné à nos actions ? Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi notre rôle que d'aller intervenir sur ces questions-là et pas attendre forcément la crise ou des grosses problématiques.
Par rapport à la perception de l'éducation populaire par rapport au public en général, qu'en est-il actuellement ? Est-ce que c'est une lubie ou alors une réalité, une nécessité ?
Moi, je pense que l'éducation populaire, elle existe à plein d'endroits sans qu'elle soit nommée comme telle, et que du coup, les personnes, en fait, s'inscrivent dans des mouvements où ils sont en train de travailler la question de l'émancipation, de l'échange de savoir, de la construction d'un savoir collectif, sans le nommer éducation populaire, et c'est très bien comme ça. Après, c'est aussi des mouvements plus militants, plus politisés, parfois structurés, qui ramènent aussi cette notion de manière plus formelle.
Nous allons nous quitter et donc je vous remercie en tout cas Sophie Quenouillère et
merci
Wim Delamotte d'être venus nous parler donc de la turbine à graines. Bon, on a déjà cité le site internet, hein, la turbine à graines au pluriel .net, tout attaché. Vous avez aussi un compte Facebook.
Tout à fait.
La turbine à graines. Pour le public et l'auditeur, vous avez une multitude de sources d'informations.
Très bien.
Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
À toi aussi.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Old vinyl and we turn it into classics. Then we mix it and we master. Then we ship it when it's packed.
Come on.
The 80s made me, 90s made me crazy. Blend it all together, hand it to my baby. It's the Bronx with a touch of Marley Marl. Digging in the crates while you sampling for breaks. But you gotta be original. Digging keep us young and the only thing we listen to. And it's always been a part of me. Like the blood in my artery. We call it God's degree. So pardon me if I don't seem interested. To sound cool, but the difference is I leave my prints on the record with every beat. Heavy beat, a steady beat. So check out my melody.
I represent skill. Master this art and build them. I got be lacking in this thing called rapping just for dope. You know the deal, I represent skill. Master this art and build them. South, poor South, A.T.
Megatron, Bronx. To hear the souls, and the feeling is unexplainable. Let me name a few, Tribe and Pete, Extra P got the recipe. Southpaw, Shadow, especially 45 King, Dilla and Madlib, Dev Large, DJ Miro is a savage, Primo, House Shoes, Diamond D, I doubt you. The fuck the show in the chop shop, Buck Wild, or Finesse, on point like a stopwatch. Alchemist and Ray West, runaway slaves since the days of the back lot. Boom back from a boombox is the backdrop. The only difference is my laptop. I was trained to ride on the track to the last stop. And you can't read the label, so ask not. You a clown and I can use a mascot.
You know the deal, I represent skill. The master is hard and feel them. Guys be lacking in this thing, go rapping just for dope. You know the deal, I represent skill. The master is hard and feel them. South, poor south, A.T.
Megatron, Bronx. Yeah, yeah, A.G., Megatron, Bronx, digging in the crates, baby. Yo, Southpaw, you know we gotta leave our fingerprints on the record, huh? All fake diggers get demolished from the Bronx to Tokyo. Y'all already know how we do.